Ka le regarda curieusement. C'était la première fois qu'il rencontrait, pour ainsi dire humainement, un étudiant spécialisé dans cette science juridique qu'il ignorait complètement. Un homme qui parviendrait probablement un jour à une très haute fonction. L'étudiant, lui, ne sembla pas s'inquiéter de Ka le moins du monde. Il fit un simple signe à la femme, en sortant une seconde un de ses doigts de sa barbe, et alla se mettre à la fenêtre. La femme se pencha vers Ka, elle lui souffla. « Ne m'en veuillez pas, je vous en prie, et ne me jugez pas mal non plus. Il faut que j'aille le retrouver, cet être horrible. Voyez-moi ses jambes tordues. Mais je vais revenir tout de suite, et je vous suivrai où vous voudrez. J'irai où vous désirerez. Vous ferez de moi ce qu'il vous plaira. Je ne demande qu'à partir d'ici pour le plus longtemps possible, et tant mieux si je n'y reviens jamais. » Et elle caressa encore la main de Ka, se leva en hâte et courut à la fenêtre. Machinalement, Ka fit un geste dans le vide pour chercher à saisir la main de la laveuse, mais elle était déjà partie. Cette femme le tentait vraiment. Et malgré toutes ses réflexions, il ne trouvait pas de raison valable de ne pas céder à la tentation. Il eut bien un instant l'idée qu'elle cherchait peut-être à le prendre dans ses filets pour le livrer à la justice, mais ce fut une objection qu'il détruisit sans peine. De quelle façon pourrait-elle bien le prendre? Ne restait-il pas toujours assez libre pour anéantir d'un seul coup toute la justice, au moins en ce qui le concernait? Ne pouvait-il se faire cette minime confiance? Et puis, cette femme avait bien l'air de demander sincèrement de l'aide, et cela pouvait être utile. Il n'y avait peut-être pas mieux à se venger du juge d'instruction et de toute sa séquelle qu'en lui enlevant cette femme et en la prenant pour son compte. Il se pourrait alors qu'un jour, après avoir longuement travaillé à des rapports menteurs sur K, le juge d'instruction, au beau milieu de la nuit, trouva le lit de la femme vide. Et vide parce qu'elle appartiendrait à K. Parce que cette femme qui se tenait à la fenêtre en ce moment, ce grand corps souple et chaud, vêtu d'un vêtement noir d'une étoffe lourde et grossière, n'appartiendrait absolument qu'à lui. Après avoir dissipé de cette façon les préventions qu'il nourrissait contre elle, il commença à trouver que le dialogue durait bien longtemps à la fenêtre et se mit à frapper sur l'estrade, d'abord des doigts, puis du poing. L'étudiant lui jeta un rapide coup d'œil par-dessus l'épaule de la femme, mais ne se dérangea pas et ne la serra que plus fort. Elle pencha la tête très bas, comme si elle l'écoutait avec grande attention, et il profita de ce geste pour l'embrasser bruyamment dans le cou sans interrompre son discours réellement. Ka crut y voir une confirmation de ce qu'elle disait elle-même au sujet de la tyrannie avec laquelle l'étudiant la traitait. Il se leva et se mit à faire les 100 pas. Il se demandait comment il pourrait chasser l'étudiant le plus rapidement possible. Aussi ne fut-il pas mécontent que l'autre, impatienté sans doute par cette promenade qui dégénérait par moments en trépignement, lui lança cette observation. « Si vous êtes pressé, rien ne vous empêche de partir. Vous auriez pu le faire plus tôt, personne ne vous aurait regretté. Vous auriez même dû le faire, et dès mon entrée, et en vitesse. » Quelque fureur que cette sortie manifesta, elle marquait aussi tout l'orgueil du futur fonctionnaire de la justice, parlant à un quelconque accusé. Ka s'arrêta tout près de lui et lui dit en souriant « Je suis impatient cet examen, et la meilleure façon de calmer cette impatience sera que vous nous laissiez là. Si vous êtes venu pour étudier ici, car on m'a dit que vous êtes étudiant, je ne demande pas mieux que de vous laisser la place et de m'en aller avec cette femme. » Il faudra que vous étudiiez d'ailleurs encore pas mal de temps avant de devenir juge. Je ne connais pas très bien votre justice, mais je pense qu'elle ne se contente pas des discours insolents dans lesquels vous vous montrez si fort. On n'aurait pas dû le laisser en liberté, dit l'étudiant, comme pour expliquer à la femme les offensantes paroles de Ka. C'était une maladresse, je l'ai dit au juge d'instruction. On aurait dû au moins le faire rester chez lui entre les interrogatoires. Il y a des moments où je ne comprends pas le juge. « Pas tant de discours, » dit K en tendant la main vers la femme. « Vous, arrivez !»« Ha ha, voilà !» dit l'étudiant. « Non, non, celle-là, vous ne l'aurez pas !» Et, enlevant son ami sur un bras avec une force qu'on ne lui aurait jamais supposée, il se dirigea, le dos baissé, vers la porte, en jetant de temps à autre un regard de tendresse sur son fardeau. Cette fuite marquait indéniablement une certaine crainte de K, et cependant, il eut l'audace de chercher encore à l'exciter en caressant et pressant le bras de la femme de sa main libre. K fit quelques pas à ses côtés, prêt à le saisir et s'il fallait à l'étrangler, mais la laveuse lui dit alors « Il n'y a rien à faire ». Elle passait sa main sur le visage de l'étudiant. « Cette petite horreur ne me lâchera pas ». « Et vous ne voulez pas qu'on vous délivre ?» s'écria K, posant sur l'épaule de l'étudiant une main que l'autre chercha à mordre. « Non !» s'écria la femme en repoussant K des deux mains. « Non, non, surtout pas ça. À quoi pensez-vous donc? Ce serait ma perte. Laissez-le don, je vous en prie, laissez-le don. Il ne fait qu'exécuter l'ordre du juge d'instruction en me portant à lui. « Eh bien qu'il file, et vous que je ne vous vois plus !» dit K, furieux de déception, en assénant dans le dos de l'étudiant un coup qui le fit chanceler. Mais, tout heureux de n'être pas tombé, l'autre n'en courut que plus vite, avec son fardeau sur les bras. K les suivit lentement. Il reconnaissait que c'était la première défaite irréfutable qu'il essuyait auprès de ces gens. Mais il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. S'il l'avait essuyé, c'était uniquement pour avoir provoqué le combat. S'il restait chez lui et continuait son existence ordinaire, il leur resterait mille fois supérieur et pourrait les écarter de son chemin d'un coup de pied. Il se représentait la belle scène grotesque que pourrait créer, par exemple, le spectacle de ce pitoyable étudiant, de ce morveux gonflé de soie, de ce mal bâti porteur de barbe, à genoux devant le lit d'Elsa et joignant les mains pour demander pardon. Cette idée lui plaisait tant qu'il décida de le conduire chez elle à la première occasion. Il gagna la porte par curiosité, pour voir où l'on menait la femme, car l'étudiant ne la porterait tout de même pas sur son bras dans les rues. Mais il n'eut pas à aller bien loin. On apercevait juste en face de la porte un étroit escalier de bois qui devait conduire aux mansardes. Un tournant empêchait de voir où il menait. Ce fut dans cet escalier que l'étudiant s'engagea avec la femme dans ses bras, lentement et soufflant déjà, car il était affaibli par sa course. La femme lança à K un bonjour de la main et chercha à lui montrer, en haussant les épaules à plusieurs reprises, qu'elle n'était pas responsable de cet enlèvement, mais ce mouvement ne trahissait pas grand regret. K la regarda sans expression, comme une femme qu'il n'eût pas connue. Il ne voulait ni se montrer déçu, ni faire voir qu'il pouvait surmonter facilement sa déception. Les deux fuyards avaient déjà disparu, qu'ils restaient encore sur le seuil. Il était bien obligé de voir que la femme l'avait trompé, et doublement, en alléguant qu'on l'emportait chez le juge, car le juge ne l'eût tout de même pas attendu dans un grenier. L'escalier de bois n'expliquait rien si longtemps qu'on l'interrogea. K remarqua près de la montée un petit écriteau qu'il courut voir et sur lequel on pouvait lire cette inscription tracée d'une maladroite écriture d'enfant. « Escalier des archives judiciaires ». Les archives de la justice se trouvait donc dans le grenier de cette caserne de rapport. Ce n'était pas une installation de nature à inspirer grand respect, et rien ne pouvait mieux rassurer un accusé que de voir le peu d'argent dont disposait cette justice, qui était obligée de loger ses archives à l'endroit où les locataires de la maison, pauvres déjà parmi les pauvres, jetaient le rebut de leurs objets. À vrai dire, il était possible aussi qu'elle eût assez d'argent, mais que les employés se précipitassent dessus avant qu'elle ne pût s'en servir pour les affaires de la justice. C'était même très vraisemblable d'après ce que K avait vu jusqu'ici. Mais cette corruption, bien qu'un peu déshonorante pour l'accusé, était au fond encore plus rassurante que ne l'eût été la pauvreté du tribunal. K comprenait maintenant que la justice rougit de faire venir l'inculpé dans un grenier pour le premier interrogatoire et qu'elle préféra aller le tarabuster dans sa propre maison. Quelle supériorité K n'avait-il pas sur ce juge qu'on installait dans un grenier, alors qu'il disposait, lui, à la banque, d'une grande pièce précédée d'un vestibule et pourvue d'une immense fenêtre qui s'ouvrait sur la place la plus animée de la ville. Évidemment, il n'avait pas les bénéfices d'accessoires des pots de vin et il ne pouvait pas se faire servir par son groom une femme dans son bureau, mais il y renonçait volontiers, tout au moins pour cette vie. Il était encore planté devant la pancarte quand un homme monta l'escalier, regarda par la porte ouverte dans la pièce, d'où l'on apercevait aussi la salle des séances, et demanda finalement à K s'il n'avait pas vu une femme là quelques instants auparavant.